Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, de partir en vadrouille avec vous jusqu'à 14h. Allons ensemble écouter le monde changer. Et justement, quelque chose est sans doute en train de changer en profondeur aux États-Unis. C'est ce qu'espèrent en tout cas tous ceux qui marchent depuis deux semaines, qui crient leur colère depuis la mort de George Floyd. Énième bavure policière sur un Africain-Américain. Pourtant, cette fois, c'est différent. Beaucoup le disent, l'espèrent. On va les écouter à Minneapolis et à New York pour comprendre. Et de cette fracture entre les Noirs et les Blancs en Amérique, il sera aussi question dans la chronique littéraire de Nicolas Carreau, puisqu'on redécouvre « Autant en emporte le vent » dans une nouvelle traduction. On sera également à Amsterdam et à Venise. Beaucoup d'Européens ont hâte de pouvoir retourner dans ces villes sur l'eau. Mais les habitants, eux, n'ont pas hâte de voir revenir les foules. La pandémie pourrait-elle favoriser l'émergence d'un nouveau type de tourisme plus respectueux des lieux et des gens qui y vivent? On fera étape au Vietnam aussi pour la toute première course cycliste internationale post-Covid. L'occasion d'entendre que le vélo prend son essor doucement dans ce pays et cette région. Et puis j'ai invité l'écrivain voyageur Olivier Weber à nous rejoindre dans la dernière partie de l'émission pour rendre un hommage à un grand monsieur disparu fin mai. Roland Michaud était photographe et humaniste. Avec son épouse Sabrina, ils ont passé leur vie à sillonner l'Orient pour rencontrer les peuples, les cultures et partager avec nous à travers leurs photos extraordinaires. Et puis Joseph fermera le banc en évoquant toutes ces autres manières de se parler à distance quand on n'a ni téléphone ni ordinateur. Les carnets sont ouverts et on prend la direction des États-Unis.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Demain et après-demain à Houston auront lieu les obsèques de George Floyd, des cérémonies publiques et privées avec Joe Biden qui s'est annoncé deux jours qui prennent l'allure de funérailles nationales. Et dans les carnets, on revient sur ces deux semaines d'émotions nationales. Bonjour Xavier Yvon.
Hello Sophie, bonjour à tous.
Vous étiez à Minneapolis dès le week-end dernier et puis tout le début de cette semaine, vous avez suivi aussi les manifestations qui ont eu lieu quotidiennement à New York où vous êtes retourné maintenant. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi l'émotion a pris une telle ampleur cette fois-ci. Et si réellement la mort de cet homme peut apporter du changement, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur cette colère qui a littéralement explosé dans le pays?
Oui, c'est vrai que ce que j'ai vu, c'est de l'émotion à vif, des gens qui se mettent à pleurer au micro ou alors qui ont de la rage dans la voix. Et franchement, depuis que je suis aux États-Unis, j'avais jamais vu de telles émotions s'exprimer à Minneapolis comme à New York, même 10 jours après la mort de George Floyd. Et c'est sa dernière phrase qui est devenue le cri de ralliement partout dans le pays.
I can't breathe.
We can breathe.
We can breathe.
Je ne peux plus respirer, on voit ça écrit par terre, sur les murs, sur les t-shirts et même sur les masques anti-coronavirus. Et l'endroit où on sent le plus ce qui est en train de se passer dans la population américaine, c'est ce carrefour de la 38e rue et de Chicago Avenue à Minneapolis. Il y a des fleurs, des dessins et des bougies qui s'accumulent sur le bitume, là même où George Floyd est mort étouffé sous le genou du policier blanc. C'est une sorte de mémorial d'agora où on alterne recueillement, discours, cris de révolte, ambiance de kermesse avec des stands de nourriture gratuite, de la musique. Et c'est là que j'ai rencontré Tonya Mitchell. Elle est venue exprès de New York pour fouler ce qu'elle appelle un sol sacré.
Pouvoir marcher dans cette rue où il a perdu la vie, ça me fait passer des larmes, à la colère, à la rage et encore aux larmes. Mon fils a 34 ans et je l'appelle tous les soirs pour être sûr qu'il est rentré sain et sauf chez lui. Parce que j'ai peur qu'il soit arrêté, qu'il se fasse tirer dessus, ou écrasé, ou étouffé, ou... Ils ont des tas de manières de nous tuer. J'ai 3 petits-fils. J'ai dû leur parler à eux aussi. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes arrêté par la police? Je ne peux pas leur dire, vous obéissez, vous vivez, parce que des gens obéissent et ils meurent. Je ne peux pas leur dire, courez, parce que des gens courent et ils meurent. Je ne peux pas leur dire, mettez vos mains en l'air, parce que des gens meurent les mains en l'air. En ce moment, je ne sais vraiment pas quoi dire à mes petits-fils. Tout ce que je peux faire, c'est les appeler pour être sûr qu'ils vont bien. Je ne veux pas que mon fils ou mes petits-fils deviennent un hashtag. Je ne veux pas, il faut que ça change, il faut que ça change. Et ça commence par demander des comptes à la police qui tue des Noirs.
Waouh!
Oui, voilà, on entend toute cette émotion, hein, colère, larmes chez Tonya. Et c'est pas nouveau, hein, c'est toujours la même histoire. Elle manifeste depuis le tabassage de Rodney King dans les années 90. Elle rappelle qu'il y a eu aussi Eric Garner à New York, là où elle habite. Il a été tué il y a 6 ans par la police, lui aussi, en disant les mêmes mots, je ne peux plus respirer.
Mais alors en quoi espère-t-elle que cette fois, il y aura du changement?
Tonia estime que cette fois, il y a une nouvelle union dans les rassemblements. Elle voit à ses côtés qu'il n'y a pas que des Noirs qui manifestent.
Je ne pense pas qu'il soit mort pour rien, parce que c'est le début d'une chose différente. Ça fait longtemps qu'on se bat, mais cette fois c'est différent, parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui sont en colère. Tout le monde vient avec nous. Nous avons des alliés blancs, et eux, on les écoute. L'Amérique les écoute. Ils doivent se lever. Vous ne pouvez pas me dire que vous comprenez ce que je ressens de voir des Noirs tués et ne pas venir en première ligne. Quand on vous entend dire « Oh mon Dieu, je suis désolée », non, on veut vous voir à nos côtés parce qu'ils vous écoutent, vous. Nous, ils ne nous entendent pas.
C'est vrai que des Blancs, Xavier, vous en avez croisé beaucoup dans les manifs.
Ah oui, énormément. Alors, probablement autant que des Noirs, c'est difficile de faire des proportions, mais aussi bien à Minneapolis qu'à New York. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de pancartes avec ces deux messages principaux. « White silence is violence », c'est-à-dire le silence des Blancs, c'est de la violence, ou aussi utiliser votre privilège blanc. Et c'est ce que fait d'ailleurs le jeune Stu qui est venu à Minneapolis se servir de sa couleur de peau comme d'un bouclier pour les manifestants noirs.
Les Blancs, nous avons le privilège de cette protection supplémentaire. Vous êtes blanc, le flic est blanc, le flic vous voit comme un humain. Il ne pense pas forcément ça d'un noir. Donc c'est essentiel d'être là aujourd'hui. Et avoir des Blancs sur le terrain, ça fait que la police hésitera plus avant de tirer ou de blesser des gens. La rhétorique qui est utilisée, c'est de dire que quand des Noirs sortent dans les rues, c'est des émeutes. Quand c'est des Blancs, c'est une manifestation.
Et parmi les images de cette union qui m'ont marqué, il y a celle de ce couple de retraités blancs agenouillés de longues minutes devant le mémorial improvisé pour George Floyd. Ils étaient en train de pleurer. Il y a un jeune noir qui est venu les prendre par l'épaule et puis qui s'est levé à côté d'eux avec le poing dressé en silence. Une image vraiment très très forte. Et je suis après allé interroger ces retraités. Et voilà ce que Lynn et Jim Jackson m'ont raconté.
Nous sommes des personnes qui avons été privilégiées toute notre vie. Et nous nous sentons vraiment mal en pensant à tous ces gens qui n'ont pas grandi avec la même chance. Nous voulons sortir de notre bulle de blanc.
Nous n'habitons pas très loin d'ici, mais quand même, nous vivons avec une vision du monde différente. Et ça n'a pas aidé les gens de ce quartier que nous ayons cette vision du monde. Nous avons cru que nous avions ce que nous avions parce que nous avons travaillé dur pour ça. Il y a du vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Nous possédons une maison avec beaucoup de valeur parce que nous avons pu avoir un crédit immobilier, parce que mes parents ont pu avoir un crédit immobilier dans les années 60, alors que les familles des gens de ce quartier n'y ont pas eu droit. Ils ont été écartés, des générations discriminées, et ce n'est pas juste. Je pense que mes parents étaient d'accord avec Martin Luther King à l'époque. Mais ils n'ont rien fait, ils avaient peur de ce que diraient leurs voisins. Et maintenant, je pense qu'il nous incombe de dire les choses et de parler à nos enfants. Il est temps pour les gens comme nous de se réveiller.
Et encore, Lynn et Jim sont déjà très conscients du problème. Ils ont même déménagé de leur banlieue blanche aisée pour s'installer dans un quartier plus métissé. Mais ils veulent s'engager plus, changer leur attitude, ne plus faire partie de ce système, comme ils disent, qui a permis ce qui s'est passé avec George Floyd.
Ouais, donc on a bien compris, c'est une mobilisation multiraciale et c'est une grande différence. Mais comment expliquer quand même que cette mort-là de George Floyd ait déclenché un tel mouvement à travers tout le pays?
Cet événement, c'est ce qu'on appelle ici une perfect storm, une tempête parfaite. C'est une conjonction de facteurs qui font que ça éclate d'un coup. Alors d'abord, il y a l'événement en lui-même. La vidéo de l'agonie de George Floyd est insoutenable, sans ambiguïté. 8 minutes 46, terrible d'ailleurs, c'est 8 minutes 46. C'est souvent le temps de silence dans les rassemblements. Et la vidéo, elle revient énormément dans les conversations. Elle est même rejouée parfois dans les rassemblements, comme Michael, par exemple, qui parle à un groupe de jeunes. Close eyes.
Fermez les yeux, imaginez-vous à terre en train de dire « je ne peux pas respirer ». Et les gens sont là, ils regardent. Imaginez-vous allongé, ici, là. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer sous l'eau et vous n'arrivez pas à reprendre de l'air. Vous suffoquez, vous mourrez lentement. Allez revoir la vidéo. Ce frère a été tué. En plein jour, comme un chien.
Voilà cette vidéo donc qui est rejouée dans les manifestations. Quels sont les autres facteurs, Xavier ?
Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine pandémie et elle a fait ressortir au grand jour les inégalités dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. D'abord, ils ont 2,5 fois plus de risques de contracter le coronavirus que des Blancs et ils en meurent de façon disproportionnée parce qu'ils ont un moins bon accès aux soins. Et aussi, ils sont plus nombreux à avoir perdu leur emploi avec l'arrêt de l'activité économique. Il y avait donc déjà un niveau de désespoir extrêmement élevé chez les Afro-Américains.
C'est pour ça que les manifestations ne s'arrêtent pas ou ne se calment même pas après l'arrestation des 4 policiers.
Écoutez par exemple Ellie, qui est un jeune noir que j'ai rencontré dans un rassemblement à Brooklyn. Pour lui, même une condamnation des policiers ne sera pas suffisante.
Ça va demander bien plus que ça, mec. C'est pas seulement la police, c'est les institutions racistes qui contrôlent cette société. C'est ancré dans l'histoire de ce pays, c'est dans les banques, les médias, la santé, la technologie, c'est partout putain. Ça me rend malade et je manifesterai jusqu'à ce qu'ils passent des lois pour démanteler ce système. Ce système préhistorique qui ne sert pas les nouveaux visages de l'Amérique. C'est ça qu'on demande, ça marche plus.
Vous l'entendez, la mort de George Floyd a donc été un catalyseur de tous les maux des Noirs américains. D'ailleurs, il en est le symbole presque parfait. George Floyd a été victime des violences policières, il en est mort, ouais. Mais aussi des inégalités économiques. Il avait été viré de son emploi avec la crise et l'autopsie a révélé qu'il avait également été infecté par le coronavirus.
Ouais. Et maintenant, Xavier, on fait quoi ?
C'est toute la question que se posent Lynn, Jim, Tonya, Ellie et les autres. Ils ne veulent pas que ça passe cette fois comme les autres morts. Alors il y a un grand rendez-vous déjà fin août pour une marche sur Washington pour rejouer celle de 1963 où Martin Luther King avait prononcé son fameux discours « I have a dream ». Ça va être un moment extrêmement important et fort. Et puis il y a une autre étape. L'un des frères de George Floyd a donné la marche à suivre. Il faut voter. Nous sommes très nombreux, a-t-il dit. Éduquez-vous et votez pour toutes les élections, de la plus petite à la plus grande. La plus grande, c'est la présidentielle dans 5 mois et la mobilisation de l'électorat noir pourrait être décisive.
Électorat noir et pas seulement, si je vous ai bien écouté. Et on verra alors si effectivement cette fois c'est différent. Merci beaucoup Xavier pour ce regard sur ces 2 semaines qui viennent de s'écouler. Je crois que vous partez à Houston pour les obsèques de George Floyd. On vous retrouvera dans la matinale demain. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Petite page littéraire dans quelques instants parce que figurez-vous que ça fait longtemps que les auteurs, les écrivains racontent aussi ce face-à-face entre les blancs et les noirs.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
On écoute Le Monde changer avec vous, Sophie Larmoyer. Il est 13h15. Un livre dans le monde, c'est maintenant, ou quand la littérature raconte aussi le monde qui change. Voici Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
On reste aux États-Unis et on remonte en quelque sorte aux racines du mal. Hein. En écho à cette actualité, vous vous intéressez cette semaine à un livre culte qui vient d'être retraduit et qui pose la question de la place des Noirs dans la société américaine.
Tout le monde connaît ce livre, sans exception. Si je vous dis Scarlett O'Hara, Red Butler, oui. Autant en emporte le vent, bien sûr, de Margaret Mitchell, publié en 1936, prix Pulitzer l'année suivante. Il vient d'entrer dans le domaine public et Gallmeister en propose une nouvelle traduction. Gallmeister, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est un éditeur chez qui on ne peut pas se tromper. Vous prenez un Gallmeister, vous savez que c'est un grand livre. Alors, Autant en emporte le vent, bien sûr, c'est carrément un mythe. Hein, une fresque sur fond de guerre de sécession. Et puis, bien sûr, le film n'est pas pour rien dans son succès qui dure.
Ouais, c'est sûr que rien que la musique, on est dedans. Autant en emporte le vent. Ce titre est fabuleux.
Oui, et alors j'ai appris à cette occasion que la traduction du titre à l'époque ne s'est pas faite sans mal. Jérôme Dupuis dans l'Express raconte que chez Gallimard, tout le monde a été mobilisé pour trouver l'équivalent français de Gone with the Wind. Écrivain célèbre, éditeur, tout le monde en allait au vent, soufflé par le vent, après le vent, vent contraire, pas facile, bof bof.
Bof.
Et puis Jean Paulhan propose Autant en emporte le vent. Et là, c'était une évidence.
Vous nous rappelez l'histoire ?
1861, nous sommes dans le sud des États-Unis, en Géorgie, dans une plantation de coton, Tara. Il y a la Scarlett O'Hara, l'héritière de la plantation. Elle a 16 ans, elle a tout pour elle, superbe. Mais elle vit aussi un chagrin d'amour. Ashley Wilkes, dont elle est amoureuse, en épouse une autre. Elle part pour la ville, Atlanta. Elle y rencontre Red Butler, nettement moins raffiné qu'Ashley, mais très séduisant, sauf que la guerre de sécession éclate et tout est bouleversé. Dans le tome 2, on est en 1866, la guerre est finie, mais il reste un champ de ruines. La plantation est dévastée, Scarlett n'a plus d'argent, reste l'amour. C'est un roman qui mêle l'amour et la guerre, qui bizarrement fonctionne souvent assez bien. Ça fait des bons romans. Là, il y a 1500 pages, je vous ai résumé ça en 5 lignes, mais 1500 pages.
Bien joué. Pourquoi le livre a-t-il été retraduit ?
Il est entré dans le domaine public cette année, donc, et au Oliver Gallmeister s'y est intéressé. Il a relu le roman et il s'est rendu compte que la traduction des années 30 avait quand même vieilli.
Elle a beaucoup vieilli parce qu'en fait, à l'époque, dans les années 30-40, lorsqu'on traduisait un livre, en fait, on le réinterprétait, on écrivait en beau français. Or, l'écriture américaine, elle n'est pas comme ça. Elle a sa propre musique, son propre rythme qui ne correspond pas aux longues phrases à la 19e siècle. Vous voyez, comme on fait en France, comme on aime. Et donc, elle ne correspond pas à la modernité du texte.
Autant d'emporte le vent, c'est un livre culte, mais qui n'est pas sans poser quelques problèmes, quelques polémiques.
Absolument, sur la place des Noirs dans la société américaine notamment. Et c'est pour ça qu'il est d'actualité. En fait, ce roman reflète à la fois l'époque à laquelle il a été écrit, les années 30, et celle de la guerre de sécession. Et donc, dans le roman, comme dans la vie de ces années-là, les Noirs sont très clairement considérés comme inférieurs. Mais si vous lisez un roman qui se passe dans les années 1860 aux États-Unis et que les Noirs sont considérés à égalité avec les Blancs, je peux déjà vous dire que c'est un mauvais roman, puisque ce serait un mensonge. Songe historique, autant en emporte le vent, et donc le reflet de son époque.
C'est une époque très marquée par la ségrégation raciale, et donc évidemment, le livre est le reflet de l'époque à laquelle Margaret Mitchell l'a écrit. Par ailleurs, le livre épouse le point de vue de Scarlett O'Hara, qui est une jeune femme de 16 ans au début du roman, marquée par son époque. Donc le livre raconte l'histoire d'une jeune femme blanche, propriétaire d'esclaves avant la guerre de sécession et pendant la guerre de sécession et après. Donc, on épouse son point de vue à elle. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que ni l'auteur et encore moins les lecteurs actuels doivent épouser ce point de vue, mais quand on décrit un personnage qui est marqué par son époque, on ne peut pas faire abstraction des réalités de cette époque-là, aussi douloureuse soit-elle et aussi choquante soit-elle aujourd'hui.
Et en même temps, ça permet aussi de mieux comprendre l'époque actuelle.
Ben oui, c'est presque un intérêt supplémentaire pour ce roman qui reste un chef-d'œuvre modernisé donc par cette nouvelle traduction de Josette Chiche-Portiche. Bravo à elle et merci.
Et c'est chez Gaël Meister en librairie le 11 juin, jeudi. Merci beaucoup Nicolas.
Merci Sophie.
On vous retrouve tout à l'heure à 14h pour La Voix et Livres.
Ça marche.
Changement complet de décor et de sujet dans quelques instants, direction le Vietnam où vient de se terminer la première course cycliste internationale.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, nous sommes avec vous Sophie Larmoyer. Le coronavirus a chamboulé tous les calendriers des compétitions sportives et notamment les courses cyclistes. On parle vélo aujourd'hui dans les carnets.
Le nouveau calendrier a été annoncé il y a un mois. La saison 2020 des grandes courses internationales sera concentrée sur 3 mois et demi. Elle commencera début août. Pourtant, une toute première épreuve cycliste post-Covid-19 s'est déjà tenue. Et heureusement qu'on est là pour en parler. Bonjour Axel May.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
C'est vous qui avez repéré cette course par étapes qui vient de s'achever ce week-end à Ho Chi Minh. Au Vietnam donc, pays où la situation sanitaire le permet. D'habitude, elle passe plutôt inaperçue, mais là, elle a eu son petit succès. Axel, vous nous plongez tout de suite dans l'ambiance.
Oui, écoutez cette petite musique et ces commentaires d'une des arrivées de la HTV Cup, du nom de la chaîne de la télévision vietnamienne qui diffuse l'épreuve. Voilà, une sorte de tour du Vietnam sur près de 3 semaines avec 18 étapes, des étapes pour sprinteurs mais aussi de la montagne. D'habitude, vous le disiez, cette épreuve se dispute dans l'anonymat. Elle ne figure même pas au calendrier de l'Union Cycliste Internationale. 84 coureurs seulement au départ, 82 locaux et 2 Européens, un Espagnol. Et un ancien coureur pro français qui ont tous deux des attaches en Vietnam et qui étaient sur place avant que le pays ne ferme ses frontières en raison de l'épidémie de coronavirus.
Alors justement, malgré la pandémie, la course a pu se disputer parce que le Vietnam, on en avait parlé d'ailleurs dans les carnets il y a un mois, affiche une réussite spectaculaire dans la lutte contre l'épidémie.
Oui, en dépit de la proximité avec la Chine, le pays qui achève de sortir du confinement ne déplore officiellement qu'un peu plus de 300 cas de coronavirus et aucun décès. Ouais. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a même salué la réactivité du Vietnam face au coronavirus et les chiffres semblent proches de la réalité. Ouais. La HTV Cup a seulement été reportée de quelques semaines, mais a bien eu lieu.
Alors au-delà de ce petit succès médiatique, comme toute première course post-coronavirus, comment se développe cette discipline, le cyclisme sur route au Vietnam ?
Eh bien, j'ai posé la question à Samy Orignac, né à Alès il y a 27 ans. Ce coureur vient de monter une équipe professionnelle au Cambodge, la Cambodia Cycling Academy. Sa femme est originaire de là-bas et le Cambodge est un pays voisin, bien sûr, du Vietnam. Cette équipe dite continentale, c'est-à-dire la troisième division professionnelle à vocation à promouvoir le cyclisme dans la région. Et écoutez ce que Samy Orignac dit du développement des courses cyclistes sur route.
Ben c'est vrai que on pense à l'Europe, on pense au cyclisme, c'est Paris-Roubaix, le Tour de France, mais en Asie du Sud-Est, même dans toute l'Asie, le cyclisme ça s'est mondialisé. Il y a des courses en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie. Chaque pays là-bas a son tour national. Et le pays où vraiment, s'ils sont vraiment vélos, c'est la Malaisie. Ils ont des très belles équipes, ils mettent de gros moyens. Après, j'irai le Cambodge et le Vietnam, c'est à peu près pareil. Et au Vietnam, ils n'ont pas d'équipe professionnelle. Au niveau des organisations de courses, ils organisent plus de courses.
Voilà, et en cherchant un peu peu, je me suis rendu compte que dans l'équipe féminine belge Lotto-Soudal, il y avait une coureuse vietnamienne professionnelle.
Donc. Ok. Au-delà de l'aspect sportif, au quotidien, Axel, est-ce que le Vietnam est encore une terre de vélo ? C'est vrai qu'on a un peu l'image du paysan vietnamien avec son chapeau conique sur sa bicyclette, mais finalement, le vélo traditionnel est en perte de vitesse.
Oui, oui, clairement. Hein. Remplacé par le deux roues motorisé, la petite moto, en tout cas dans les grandes villes. À noter toutefois le développement du vélo électrique. Et il y a tout de même une grande foire du vélo annuelle, la 7e édition de l'exposition internationale de la bicyclette, c'est son nom, se tiendra en novembre à Hanoï. Et puis il y a une marque locale, Phuong Nhat, qui est bien implantée, devise commerciale, prestige et qualité.
Et le tourisme à vélo dans tout ça, est-ce que c'est possible au Vietnam ?
Le cyclotourisme existe localement, même s'il reste relativement discret. Jean-Michel Chassedieu s'est rendu pour la première fois en 90 au Vietnam. Il y a trouvé l'amour et s'est pris de passion pour le pays. Il possède une agence de voyage à Hanoï et depuis une quinzaine d'années, il travaille avec la Fédération française de cyclotourisme.
Il y a toutes sortes de paysages, de rizières, de montagnes, de forêts, etc. Ça se prête tout particulièrement au cyclotourisme, dans la mesure où c'est bien le but du jeu, de découvrir un pays à la vitesse du vélo, mais un joli pays. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que le pays se développe à une vitesse exponentielle. Et donc, c'est pas de trouver les sites, parce que les sites sont là, mais c'est de trouver les routes qui, aujourd'hui, permettent de pas être avec des camions de 35 tonnes qui roulent à 80 à l'heure, dans la pollution, dans le bruit, dans les klaxons.
Et Jean-Michel Chassedieu, de l'agence Vietnam Aventure, insiste, le vélo fait partie de l'histoire du pays, il a été très utilisé. Ouais. Dans les campagnes, vous êtes très bien accueillis pour le cyclotourisme, mais il faut éviter les grands axes routiers.
Ouais, c'est pas très sympa ce qu'il a décrit. Et puis il y a cette petite mode qui est en train de naître au Vietnam, j'adore l'idée, c'est le vélo en bambou.
Oui, les cadrans en bambou, hein. Quand on voit, ça donne l'impression vraiment d'avoir assemblé des morceaux de bambou entre eux. C'est esthétique, naturel, léger et résistant. Bernard Kervin est belge, grand amateur de vélo, installé depuis près de 30 ans au Vietnam, où il dirige la fondation Mekong Plus qui vient en aide aux plus démunis. Et parmi ses nombreuses initiatives, la fabrication de ces vélos en bambou.
Le Vietnam est le pays du bambou et avec des vélos en bambou, on a des performances vraiment très très intéressantes. Donc c'est très très souple, c'est très agréable, c'est un très bel objet aussi. Et pour nous, la dimension développement, c'est qu'en fait, on crée des emplois en fabriquant des vélos. Donc on en a produit à peu près 2000 à ce jour. Et là, on se lance dans la production de vélos électriques en bambou. Donc je crois que ça va être un deuxième souffle à notre production. Les vélos en bambou, on les exporte en Europe. Beaucoup. On les utilise aussi au Vietnam et au Cambodge, bien sûr.
Bernard Kervin de l'ONG Mekong Plus. Et puis on dit que c'est le grand designer vietnamien Khazar Khan, récemment décédé, qui aurait inventé le vélo en bambou sous le nom de la bambouclette, contraction de bambou et bicyclette.
Charmant nom, la bambouclette. Et d'ailleurs, on peut trouver des vélos en bambou en France. Il y a plusieurs fabricants, mais alors il faut quand même compter quelques milliers d'euros. Le prix à payer, sans doute, pour l'originalité. Merci beaucoup, Axel, de nous avoir transporté comme ça au Vietnam. À bientôt.
À bientôt.
Et revenez quand vous voulez. À suivre, on va dans l'un des pays du vélo, justement, aux Pays-Bas, à Amsterdam précisément, où le tourisme fait débat dans certains quartiers. Certains voudraient bien qu'on ne retourne pas au monde d'avant.
Europe 1, les carnets du monde.
Nous sommes avec Sophie Larmoyer jusqu'à 14h sur Europe 1 et à l'heure du déconfinement. Dans les carnets du monde, on vous emmène dans deux villes qui s'interrogent sur le type de tourisme qu'ils veulent voir revenir chez eux ou pas.
Amsterdam et Venise, deux villes sur l'eau, deux cités au style très différent mais qui attirent des foules de visiteurs et deux villes qui ne sont pas sûres de vouloir que le monde d'après ressemble à celui d'avant la pandémie. Amsterdam d'abord, la crise du coronavirus a chassé les millions de visiteurs qui venaient faire la fête ou consommer de la drogue. Les habitants du centre se sont réappropriés leur ville, ils ne veulent pas que ça change. C'est un reportage signé Isabelle Horry.
Dans la ruelle, les enfants jouent à 1, 2, 3 soleil sous le regard des adultes qui bavardent entre eux. La scène peut sembler banale, en réalité, elle est exceptionnelle. Dans le centre historique et architouristique d'Amsterdam, Svenja se frotte les yeux.
C'est très chouette, pas besoin d'aller dans un parc là, on peut juste jouer devant la porte. C'est très tranquille pour nous. Normalement, il y a beaucoup de taxis qui viennent là, et des touristes, et il y a beaucoup de monde normalement. Et c'est pas possible de jouer comme ça, donc c'est beaucoup plus tranquille là maintenant.
Même constat pour Asia, sa fille de 10 ans.
C'est quand même rigolo parce que souvent on joue pas comme ça avec des enfants. Il y a beaucoup de voitures qui passent.
Et ils vont pas doucement, mais ils vont vraiment très vite.
Anita est une voisine. Cette documentariste milite pour limiter le tourisme de masse dans le centre où vivent moins de 100 000 personnes.
Chaque année, on a presque 15 millions de touristes qui viennent. Ils ne restent que dans le centre. Vous voyez ici, c'est tout petit, des petites rues, des petites places. Il faut que ça arrête.
Avant le coronavirus, la situation était critique autour du quartier rouge et des vitrines des prostituées. Aujourd'hui, sur le bord du canal, les vitrines sont vides, tout est alloué, les canards sont tranquilles, les propriétaires des bâtiments comme Robert font des travaux, même lui ne veut pas d'un retour à l'avant-virus.
Normalement ici, on se marche dessus, il y a trop de monde. Donc on veut bien que les touristes reviennent, mais pas comme avant. 50% seulement, ça suffira. Même les filles en avaient assez de voir des touristes ici avec des enfants. Ici, c'est censé être le quartier mal famé d'Amsterdam. On voudrait que ça le reste.
Fin mai, les associations de quartier ont rédigé un plan d'action pour une ville en équilibre. Elles proposent d'interdire aux coffee shops de vendre de la drogue aux touristes étrangers. Elles veulent limiter les locations Airbnb. Anita est associée au projet.
C'est pas vraiment tout nouveau qu'on a des projets pour changer ce quartier, mais on a vraiment pris ce moment pour continuer avec beaucoup de force pour arrêter cette folie. On rêve que les prostituées vont ailleurs. Il y a déjà un petit plan pour construire une sorte d'hôtel dans le sud d'Amsterdam.
Attirer une partie des touristes ailleurs, les commerces qui dépendent de la clientèle étrangère font la grimace. Jeroen attend avec impatience les étrangers, 70% du chiffre d'affaires de son bar-restaurant.
Nous, on veut plus de touristes. Amsterdam, c'est la convivialité, les terrasses pleines, surtout ici sur la place. C'est un endroit fantastique pour qu'ils reviennent. Notre commerce a besoin de touristes.
Il y a besoin de touristes, oui.
Entre le désir de calme des habitants et les emplois, pas facile d'arbitrer pour les autorités. Mais Anita veut croire que la mairie va écouter les Amsterdamois avant qu'il ne soit trop tard.
Je connais plein de gens qui sont nés ici, qui cherchent d'aller ailleurs, de quitter Amsterdam. Une ville sans habitants, sans travail, c'est une ville morte.
Amsterdam, Isabelle Horry, Europe 1.
Et elle est retournée dans ses pénates bruxelloises où on la retrouve. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
Alors, comment la mairie réagit-elle à ces demandes des habitants du centre-ville ?
Bon, elle n'y est pas hostile. Hein. Après tout, ce sont des électeurs. Et depuis les élections municipales de 2018, les Verts sont devenus le premier parti à Amsterdam. Et ils sont sensibles à ces questions de surtourisme, comme on dit là-bas. La municipalité avait d'ailleurs déjà pris des mesures, mais la crise du coronavirus pourrait permettre d'accélérer les choses. C'est ce que m'a dit Zeger Enstein. C'est l'un des conseillers municipaux spécialistes du sujet. Et lui-même, il habite dans le centre d'ailleurs.
C'est le bon moment pour prendre des mesures afin de promouvoir une forme différente de tourisme. Maintenant que les commerces sont en difficulté, nous pouvons les inciter à changer de modèle, à se tourner davantage vers le quartier. Avant, nous avions 3 boulangeries où acheter notre pain et nos croissants. Elles n'existent plus. Elles ont été remplacées par des marchands de glace. Il faut inventer de nouveaux instruments pour que ces commerces ne ciblent plus seulement les touristes, mais aussi les besoins des habitants du quartier.
Est-ce que le tourisme pèse lourd, Isabelle, dans l'économie de la ville ?
Alors en fait, il représente 11% de l'économie locale et 70 000 emplois, selon les chiffres officiels. Mais bon, Amsterdam, c'est pas une ville musée. Hein. Elle a d'autres atouts. Il y a beaucoup d'entreprises internationales qui sont installées. Mmh. C'est le cœur économique des Pays-Bas, un centre financier important aussi. Sa richesse ne repose pas uniquement sur le tourisme. Elle a les reins plus solides. C'est la différence sans doute avec Venise, par exemple. Mmh.
L'autre différence, ce sont les célèbres coffee shops d'Amsterdam qui attirent aussi des gens plus jeunes.
Oui, aujourd'hui, les Pays-Bas sont le seul pays en Europe qui tolère l'achat de drogue douce pour sa consommation personnelle. Amsterdam est donc devenue une destination phare pour les jeunes qui viennent y faire la fête. Ouais. Et la multiplication des vols à bas prix, plus la montée en puissance des locations Airbnb, ça avait accentué la tendance. Mm-hmm. C'est vraiment contre ce tourisme-là et ces nuisances que les habitants se révoltent.
Vous disiez que la mairie avait déjà commencé à agir avant la crise.
Oui, par exemple en interdisant l'ouverture de nouveaux magasins touristiques dans le centre ou en augmentant les taxes de séjour. Et dans quelques jours, le 1er juillet, des restrictions drastiques entrent en vigueur pour les locations Airbnb. Mmh. Elles seront carrément interdites dans la zone des canaux historiques. Dans les autres quartiers, il y aura des limites. Il faudra un permis. Interdit aussi de louer son logement plus de 30 nuits par an. Et les locations seront pour 4 personnes maximum, histoire d'éviter les groupes de jeunes, justement.
Alors, ça, c'est pour les logements. Quid des prostituées du quartier rouge et des coffee shops ?
Alors là, la réflexion est en cours. Alors plutôt sur les coffee shops d'ailleurs, parce que l'Amérique, qui se veut tolérante et ouverte, entend respecter les droits des prostituées, dont l'activité est légale et taxée aux Pays-Bas. En revanche, l'idée flotte d'interdire l'accès des coffee shops aux touristes étrangers, comme c'est déjà le cas d'ailleurs hein, dans de nombreuses autres villes néerlandaises. Mais voilà, c'est une décision lourde de conséquences. Selon une étude d'impact qui a justement été réalisée avant la crise du coronavirus, un visiteur sur trois affirme qu'il viendra moins souvent si c'est le cas, et un sur dix qu'il ne viendra plus. On va donc voir si la municipalité franchit le pas dans les mois qui viennent ou si au contraire la crise économique déclenchée par la pandémie va freiner ses efforts.
Ouais, la crise est évidemment un élément important qui rentre en compte. La plupart des frontières européennes vont rouvrir dans quelques jours, le 15 juin. On verra alors si les touristes reviennent et comment tout cela évolue dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup Isabelle.
À bientôt Sophie.
À bientôt. Et finalement, ce sont les mêmes dilemmes qui se présentent aux habitants de Venise au moment du déconfinement. Vous vous rappelez peut-être, il y a un mois, on avait appelé une auteure française qui est vénitienne, elle vit là-bas. Ariel Buteau nous racontait le calme retrouvé, les bruits et les odeurs d'une ville enfin vidée de ses hordes de touristes et l'espoir que la vie reprenne autrement. Espoir plutôt déçu à ce stade. J'ai rappelé Ariel Buteau il y a deux jours, écoutez.
Ça s'est passé en deux temps. Il y a eu une phase où on sortait, mais bon, il y avait essentiellement les Vénitiens qui étaient là, qui récupéraient leur espace, leurs habitudes, qui se retrouvaient, les enfants qui jouaient dans la rue, les gens sur les bancs, etc. Bon, c'était très sympathique. Et puis, il y a eu un week-end très long ici, qui était le week-end de la Pentecôte et de la fête nationale, où les gens de Vénétie sont venus en masse à Venise parce qu'on les y avait fortement incités. Et bon, pourquoi pas, ils avaient raison de venir, je comprends, après toutes ces semaines tellement difficiles. Le problème, c'est que ça a été tellement mal fichu qu'en fait, on a eu on était entassés dans les rues, entassés dans les vaporettos. Il n'y avait plus aucune distance de sécurité qui tenait. Et on n'a pas compris parce que le confinement ici a été extrêmement strict, avec des amendes extrêmement salées pour des choses ridicules comme se balader à plus de 200 mètres de chez soi, ganté, masqué. On prenait des amendes à 280 euros, vous voyez. Et là, d'un coup, tout le monde est entassé. Donc, on ne comprend pas très bien.
Alors qu'il y a par ailleurs des règles extrêmement strictes encore dans les restaurants, etc. Quoi.
Oui, c'est-à-dire si vous allez au restaurant avec quelqu'un, on vous demande tout de suite si vous habitez avec cette personne. Vous ne pouvez pas toucher la carte. Enfin, c'est très, très, très strict encore. On n'a pas le droit de se balader en groupe. Et en même temps, ce qu'on a vécu là ce week-end, c'est une violation de toutes ces règles-là, en fait.
Et ça, est-ce que ça veut dire que le tourisme de masse, dont beaucoup d'entre vous, Vénitiens, espériez qu'il n'allait pas reprendre, est en train de reprendre, que les boutiques ont repris leurs habitudes, leur bruit, leur pollution sonore, etc.
Oh ben on a tout, la pollution sonore, la pollution visuelle. Et c'est vraiment dommage, parce que pendant le confinement, quand seules les boutiques dites nécessaires étaient ouvertes, on se rendait compte quand même que si on avait eu un peu plus d'épicerie, un peu plus de commerce de proximité, un peu plus de petites choses pour les Vénitiens, ça n'aurait pas été plus mal.
Vous nous aviez dit pendant le confinement, votre espoir partagé par beaucoup d'habitants de Venise, que ce serait différent après et que les nouvelles habitudes de télétravail, etc., inciteraient à créer une autre manière de faire du tourisme. Les Vénitiens se mobilisent aujourd'hui face à ce week-end dernier dont vous nous avez décrit les foules, là, le côté le grand n'importe quoi.
Oui, ils se mobilisent tellement que juste après, le lendemain, je crois, ou sur la main du week-end, il y a eu un flash mob devant l'hôpital pour protester justement. Enfin, pour protester, pour attirer l'attention en tout cas sur la situation. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Il y a un manifeste qui a été signé, que j'ai signé d'ailleurs, par des gens de la société civile qui vont présenter une liste. C'est pas pour être contre le tourisme, c'est simplement pour revenir à quelque chose d'équilibré où les touristes pourraient vraiment visiter cette ville et avoir un touriste qui s'intéresse vraiment à cette ville et pas seulement à faire du shopping ou aller chez McDo. Et où les Vénitiens pourraient vivre une vie normale. Enfin, dans les années 80, dans les années 90, il y avait un équilibre. Il y avait beaucoup de tourisme, mais il n'y avait pas cette monoculture du tourisme, mais il n'y avait pas ce tourisme invasif. Quoi.
On a l'impression que vous vivez un chagrin d'amour. Hein.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est nombreux, on s'est dit c'est merveilleux, on sait que ça ne va pas durer, on sait que ça ne peut pas durer. Mais en fait, je pense qu'on y a tous un peu cru, quoi. Voilà, c'est un amour perdu, en fait, qu'on est en train de vivre. Et on va essayer, j'espère, avec des gens de bonne volonté, que cet amour perdu devienne peut-être le transformer entre une belle amitié. C'est ce qu'on fait en général, non? C'est ce qu'on essaye de faire.
Ariel Buteau, auteure et habitante de Venise, amoureuse de sa ville. Les élections municipales sont programmées pour l'instant pour septembre. Et ce sujet du surtourisme sera sans doute central dans les choix que feront les habitants dans les urnes. Dans quelques instants, on rend hommage à un grand photographe disparu la semaine dernière. Il s'appelle Roland Michaud.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h42, Sophie Larmoyer, la suite des carnets avec à présent un hommage à un très grand photographe disparu il y a une douzaine de jours.
Un grand monsieur s'est éteint le 25 mai dans sa 89e année. Roland Michaud était un immense photographe de cette génération qui part en reportage comme on part en expédition. Pour longtemps, c'est sûr, et même souvent sans connaître la date de retour. Son premier voyage, il l'avait fait à 19 ans. Le baccalauréat tout juste en poche, Roland Michaud était alors parti à vélo vers la Laponie. 10 ans plus tard, en 1960, premier voyage avec son épouse Sabrina, car les Michaud, comme on les appelait, étaient devenus un couple de photographes. En 1960, donc, leur destination, c'était l'Éthiopie. Leur véhicule, une de chevaux, prévu pour 6 mois, le voyage dura 17 mois. Sabrina et Roland Michaud étaient des aventuriers élégants, passionnés par l'Orient, l'Inde, l'Afghanistan, la Mongolie. Il y a 5 ans, en juin 2015, ils venaient de recevoir le prix photo Planète Albert Kahn, le seul prix, bizarrement, qu'ils aient jamais reçu. Et je les avais invités au micro d'Europe 1. Voici un extrait de leur interview qui démarre sur l'évocation de ce premier grand voyage ensemble, justement, en 1960.
Ah ben écoutez, il fallait suivre ce qui nous inspirait. On a compris qu'il fallait prendre le temps. Les gens ne se confient pas, ne s'ouvrent pas. Vous n'apprenez pas les petits secrets. Et il y a tant de choses, dès que vous quittez la grande route, passionnantes. Mais il faut avoir l'information. L'information est capitale. Donc il faut baragouiner la langue. Il faut du temps. Il faut du temps.
Je crois que c'est vraiment le maître mot de l'enseignement de ce voyage-là, qui est
essentiel pour toute une vie, je crois, pas seulement pour le voyage.
Il faut dire quand même que cette idée de temps ne plaît pas. Ils sont encore en Inde, mais qu'est-ce qu'ils font? On aurait bien aimé, les magazines auraient bien aimé dire « Ah, les Michaud sont au Pérou, on va avoir de nouvelles images ». Mais nous avons compris, ou cru comprendre, que pour creuser, il faut du temps. Et c'est exactement comme connaître une personne, comme connaître... Oui. Après 57 ans de mariage, je n'ai pas la prétention de connaître ma femme, de connaître
Sabrina. Il faut toujours garder un certain mystère.
Et puis oui, nous pensons aussi que le mystère, qu'on veut tout dévoiler, tout raconter, la mode c'est la transparence, nous pensons que ça enlève beaucoup de charme à la vie.
Sabrina, vous vous êtes mise à la photo aussi et vous photographiez tous les deux, notamment parce que ça permettait d'avoir accès aux femmes.
Parce que dans les pays traditionnels, les hommes ne pouvaient pas photographier les femmes. Ils pouvaient, Roland pouvait éventuellement faire un portrait, mais en aucun cas pénétrer dans la maison de cette jeune femme ou jeune fille et voir ce qui s'y passait. C'est la femme qui garde les traditions, hein, en général, toujours. Donc c'était ultra important que je puisse pénétrer.
C'est un travail qui frise l'ethnologie, ce que vous avez fait.
Oui, absolument, absolument.
Sur vos photos, les gens, les paysages sont tous beaux. Tous, voire très beaux. Ça vous a d'ailleurs été parfois reproché. Oui, hein, on a dit, vous faites de l'esthétisme, etc. Vrai. Mais c'est un choix que vous avez fait et auquel vous tenez. Insister sur les côtés positifs de ce
que vous
croisez sur la route.
Pour voir les misères et dire on est très bien chez nous.
Et pourtant, il y en avait déjà.
Et il y en avait. Nous étions jusqu'au cou dans la réalité concrète du pays.
Et pourquoi alors voulez-vous monter les choses belles?
Parce que c'est un tempérament. Nous avons envie de grandir un petit peu, même si on ne grandit pas facilement. Et si vous voulez, c'est très curieux, c'est que dans mon premier voyage en Laponie, alors j'avais 19 ans, j'ai écrit en exergue d'un espèce de carnet de bord, j'ai écrit « Il ne faut voir chez les autres que ce qui est meilleur que chez soi. Ne vous attendez jamais à m'entendre dire « c'était moins beau, moins bon, moins bien ».
Mis bout à bout, vous avez passé 14 ans en Afghanistan, entre les années 64 et 78, mais c'était avant les guerres, avant l'invasion soviétique, le règne des talibans, la présence des troupes de l'OTAN, tout ce qu'on a vu ces dernières années, vous n'y êtes pas retourné. Est-ce que cette beauté qui émane de vos photos, cette période-là, est-elle révolue ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on ne tue pas l'esprit, on ne peut pas transformer les paysages, et il reste quelque chose. Les Afghans que nous rencontrons à Paris, et même tous les journalistes qui sont allés là-bas, ont tous été pris par l'Afghanistan. C'était un pays extraordinaire, hors du commun, exceptionnel.
Et il reste des choses aujourd'hui.
Et ça aujourd'hui, nous ne sommes pas retournés, mais il n'est pas possible que certaines choses disparaissent. Alors évidemment, c'est pas évident, mais vous savez bien que les cultures sont capable de survivre à des événements terribles à travers les siècles.
Si vous deviez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, vous leur diriez quoi ?
Suivez votre voie.
Faites ce que vous aimez.
Mais il faut de la patience, il faut tenir le coup, il faut savoir ce que l'on veut.
On réussit ce qu'on aime faire.
Voilà, oui, voilà.
C'est oui, ça. Oui.
C'est une garantie.
Roland et Sabrina Michaud, mus par la passion des rencontres qu'ils ont faites à travers le monde. Bonjour Olivier Weber.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter et écrivain, explorateur aussi. Vous avez été contaminé par le virus du voyage par des hommes comme Joseph Kessel. Vous étiez venu nous en parler il y a presque un an. Et aussi par Roland Michaud.
Oui, parce que Roland Michaud, c'est ce qui transpire de l'interview de ce que vous avez dit, c'est qu'il était vraiment un inspirateur, c'est quelqu'un qui prenait son temps avec Sabrina, son épouse, tous les deux photographes. Donc, et pour moi, c'est une dimension onirique, c'est une dimension du rêve, c'est presque une impulsion de départ. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé en Afghanistan, mais aussi sur les routes de la soie, grâce à quelques auteurs qu'on aime, des écrivains, mais aussi grâce à Roland et Sabrina Michaud. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans ces photos qui m'ont fait rêver, c'est de retrouver pratiquement les mêmes cadres sur place. Et moi, je suis incapable de prendre une photo, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose à gratter derrière cette image, derrière les photos de Roland et Sabrina Michaud, et que c'était plus que l'instant T qui était fixé. C'était un passé qui surgissait et en même temps un futur qu'on pouvait imaginer. Donc un temps qui était fixé, mais qui vous poussait à voyager et qui vous poussait à rêver, qui vous poussait à imaginer. Donc oui, pour moi, il fait partie de la grande trempe des grands photographes.
Comme une sorte de pérennité de l'humanité ?
Oui, alors, beaucoup d'humanité, beaucoup de regards humains, un regard fraternel. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, c'était bien longtemps après ses premiers voyages sur la route de la soie en Afghanistan. Et j'étais un petit peu, comment dirais-je, intrigué par le personnage, mais aussi un peu fasciné par ce qu'il pouvait ressortir. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est sa grande simplicité, celle de Sabrina également, son épouse. Vraiment, tous les deux sont, je parle encore au présent, comment dirais-je, très fraternel, très égalitaire avec moi qui était jeune voyageur, jeune écrivain et reporter. C'était presque comme si on était sur un pied d'égalité, non pas au niveau technique, parce que encore une fois, je suis incapable de faire le dixième de ce qu'ils ont fait, mais sur le plan humain. Et évidemment, c'est ce qui ressortait de leur voyage, ce besoin de rencontre, ce besoin de parler de l'autre. Et c'est pour ça que pour moi, leur regard est pratiquement ethnographique. J'ai envie de dire que c'était presque les Jean Rouch de la photo. Jean Rouch, ethnographe, qui faisait ethnologue, donc qui faisait de ces films de vrais récits de voyage. Eh bien, les Michaud ont fait de leur rencontre, de cette passion du voyage également, un roman ethnographique.
Et il y avait souvent une notion de sacré dans leur manière d'aborder la vie et les autres.
Oui, ça sortait de leurs photos littéralement, ça sortait du cadre, à la fois par le regard d'un enfant, par un jeu de bouskashi, vous savez, ce jeu de polo, on va dire, en tout cas d'équipe à cheval en Afghanistan, où se partage un animal, en fait, décapité.
La dépouille d'une
chèvre.
Ça
peut paraître un peu barbare, tout à fait, mais c'est la tradition millénaire de l'Afghanistan. Et donc, ils étaient attachés tous les deux à la tradition, mais aussi à la sagesse, à la philosophie de l'Orient et jusqu'au bouddhisme qu'ils ont trouvé au fin fond de l'Asie, mais pas que, c'était aussi l'islam qui intéressait Sabrina parce qu'elle est d'origine marocaine. Et donc, il y avait une démarche contemplative et à la fois pleine de lumière au sens photographique du terme, mais aussi ce qui sortait encore une fois de cette photo au sens philosophique du terme. Et c'est vraiment, je crois, ce qui a fasciné des générations de voyageurs et des générations de photographes.
Et puis Roland Michaud noircissait une multitude de petits carnets de notes. Je crois qu'il avait vraiment une démarche de documentariste. Ça ressortait aussi dans les textes de leurs livres. Il aimait le mot.
Oui, absolument. Le mot accompagnait non seulement ses voyages, mais aussi ses livres. C'était plus que des livres avec des légendes. C'était des livres où le texte et la photo se mariaient. Et quand on lit leurs livres, les livres de Roland et Sabrina Michaud, Miroir de l'Orient et tant d'autres, Caravane de Tartarie, vraiment, il y a quelque chose qui transpire de ce mélange, de ce mariage, de cette osmose entre le mot, entre la phrase et la photo. Et je peux vous dire que ça va très très bien ensemble sous leurs plumes et sous leurs boîtiers.
Vous avez trouvé certains de leurs livres à l'étranger, notamment au Pakistan ou à Kaboul ?
Oui, alors au Pakistan, c'est drôle parce que Peshawar, une ville au nord-ouest d'Afghanistan, assez dangereuse d'ailleurs, était un peu la base arrière pour les voyageurs, pour les écrivains, pour les reporters qui allaient en Afghanistan. Il fallait souvent attendre des jours, voire des semaines, et j'avais trouvé des copies, donc en fait, des copies de leurs livres et qui étaient imprimées en quelque sorte illégalement. Et Roland ne le savait même pas. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, je lui ai expliqué, ça l'a bien fait rire. En tout cas, d'une très bonne qualité. Et j'ai voyagé avec ces livres. Et un jour, à Kaboul, j'ai revu dans une librairie qui était restée ouverte alors que Kaboul était aux mains des talibans. J'ai revu deux ou trois de leurs livres qui étaient en vente dans la seule librairie encore ouverte de Kaboul. Alors c'était assez drôle parce que certains des talibans venaient les feuilleter. Pourquoi ? Parce qu'il y avait aussi des miniatures persanes scène reproduite avec le talent photographique actuel contemporain de Roland et Sabrina Michaud, et s'amusaient beaucoup les talibans parce qu'ils pouvaient voir des corps de femmes ainsi qui étaient photographiés en Inde, au Pakistan ou ailleurs, et donc il y avait un côté presque licencieux qui était dans les livres de Roland, et ça l'a bien fait rire quand je lui ai raconté ça lorsque je l'ai rencontré bien des années plus tard.
Merci de nous parler avec ce sourire de Roland Michaud, donc disparu la semaine dernière. Et on pense évidemment à Sabrina qui l'avait accompagné lorsqu'ils étaient venus évidemment à Europe 1. Ils étaient inséparables. Merci beaucoup Olivier
Merci
Weber.
Vous,
et je vais signaler l'apparition de votre prochain roman. Un roman vrai, me dites-vous. Ça s'appelle L'Arrière-Pays, apparaître cet été chez Calman Lévy. Merci, à bientôt.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Les Carnets du Monde sur Europe 1.
Et on poursuit le voyage à Sophie Larmoyer. Lui aussi, il aime prendre le temps. C'est le moment de faire un petit détour par l'Autistan avec notre guide Joseph Chevanec. Joseph qui porte toujours sa triple casquette, philosophe, autiste Asperger et voyageur infatigable.
Voyageur un peu statique ces derniers temps, forcément. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Cette semaine, c'est le télétravail qui vous inspire quelques réflexions.
Oui, Sophie, beaucoup de gens ont télétravaillé ces dernières semaines. Mais je ne suis pas d'accord avec une chose, c'est que la communication à distance pourrait bien être une idée ancienne déjà. Dans beaucoup de coins du monde, il y a des moyens pour communiquer à distance. Et ce sujet me trotte dans la tête depuis une bonne dizaine d'années. À l'époque, on m'avait trouvé, par je ne sais quel miracle, un petit job à l'UNESCO. Plus précisément, j'étais au service qui s'occupait du patrimoine immatériel de l'humanité. Je devais retravailler des dossiers de candidature pour la fameuse liste. Et le dossier qui m'avait le plus marqué avait été celui sur les langues sifflées des îles Canaries.
Je vous interromps, Joseph, quelques secondes. Voilà, ça donne ça. Et je précise qu'il existerait environ 70 langues sifflées dans le monde.
Oui, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et l'idée est aussi simple que géniale. La voix humaine normale ne porte pas très loin. Mais quand on fait correspondre à chaque son du langage parlé un son sifflé, eh bien, avec un peu d'exercice, le son porte beaucoup plus loin, une dizaine de kilomètres sans problème. Et ça a beaucoup résonné, sans jeu de mots, avec mes souvenirs d'enfance, des vacances avec mes parents dans les montagnes suisses. Souvent, quand on était avec des amis suisses dans les Hautes-Vallées, soudain, ces amis-là se figeaient en pleine conversation. C'est qu'ils avaient entendu quelqu'un crier, ou plutôt faire le yodel. Hein. Vous connaissez cette technique vocale où l'on alterne très rapidement la voix de fossé avec la voix dite normale. Et ça porte très loin là aussi.
Mais c'est surtout un chant, le yodel, non ?
Oui, on peut le prendre comme un certain type de musique aujourd'hui. Mais à l'origine, il s'agissait d'un cri qui résonnait à travers les vallées pour rappeler les troupeaux, pour dire sa joie ou pour appeler à l'aide. Ceci étant, qu'on se le dise, il est impossible de communiquer des messages complexes, de faire de vraies phrases avec ce système, contrairement aux langues sifflées.
Vous avez d'autres exemples comme ça de langages non-verbaux et qui permettent de communiquer de loin ?
Oh oui, et samedi dernier, j'ai fait une découverte épatante. Depuis plusieurs années, je voulais visiter le fameux musée Africa de Tervuren, c'est tout près de Bruxelles. Alors je me suis lancé sur mon petit vélo à l'assaut des 50 km et je n'ai pas été déçu. En particulier car une salle entière du musée était dédiée aux tambours parlants. Alors le musée montrait surtout des tambours d'origine congolaise à cause de l'histoire coloniale. De quoi s'agit-il ? C'est un tronc d'arbre qui est savamment travaillé pour avoir une fente qui le parcourt d'un bout à l'autre dans le sens de la longueur. Si l'on frappe d'un côté, le son est plus grave. Si l'on frappe de l'autre, le son est un peu plus aigu. Et c'est là tout le secret. Parce que beaucoup de langues de la région du Congo sont des langues tonales à deux tons. Une langue tonale distingue les hauteurs de tons. Pour prendre un exemple, celui qu'on donne toujours en chinois standard, ma veut dire maman, mais ma veut dire cheval. Donc un tambour peut, en jouant sur les temps musicaux, imiter le langage humain.
Voilà, un petit exemple, hein. Malheureusement pas en plein air, pas en situation.
Oui, et en situation, on peut se parler avec toute la richesse du langage par tambour interposé à des kilomètres de distance. Et mieux encore, pour éviter les ambiguïtés, puis pour se faire plaisir bien sûr, les artistes avaient tendance à dédoubler des mots. Par exemple, au lieu de dire « rentre à la maison », on disait « fais venir tes pieds là d'où ils sont partis, fais venir tes jambes de là où elles sont parties, plante tes pieds et tes jambes dans le village qui est le nôtre, etc. » Je l'avoue, je n'y comprends rien à la musique en général, mais La salle des tambours qui parle du musée Africa de Tervuren restera longtemps dans ma mémoire.
Allez, rangeons nos téléphones portables, sortons les tambours, apprenons à siffler. Je crois d'ailleurs que sur certaines îles des Canaries, le langage sifflé est enseigné en classe, hein, à l'école.
Oui, j'aurais dû m'y inscrire.
Merci beaucoup, Joseph, pour ce voyage sonore. À dimanche prochain.
À tout bientôt, merci.
Merci à tous de nous avoir accompagnés. On referme les carnets du monde. Le podcast de l'émission est disponible sur europe1.fr, notre adresse mail. Si vous voulez témoigner d'une situation à l'étranger, lescarnetsdumonde@europe1.fr. Merci à Marc Fréjean et Florence Gimalac qui ont réalisé et préparé cette émission. On se remet au travail pour tourner une nouvelle page ensemble dimanche prochain. Mais tout de suite, plein de pages à tourner avec Nicolas Carreau qui prend le relais. Quel est le programme, Nicolas ?
Ah bah, y a un petit événement aujourd'hui dans La Voix et Livre. Interview de Patricia Cornwell pour son nouveau livre, The Quantum. South. Je suis allé la rencontrer à Boston juste avant le confinement et cherchez pas, elle n'a parlé qu'à Europe 1.
Très bien. La Voix est libre, c'est le bonheur dans quelques minutes. Merci beaucoup, Nicolas. Je tire ma révérence et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Europe 1.